BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Alors un peu en retard et on s'en excuse pour les problèmes techniques, hein, vous l'avez évidemment repéré depuis 16h, on est de retour, 17h12, on met les pendules à l'heure et c'est BFM Bourse au rythme des marchés pour vous faire vivre quand même cette dernière demi-heure de cotation là sur les indices ici en Europe, alors que Wall Street est bien orienté, le S&P 500 gagne 0,6%. Il est là, vous l'attendiez, oui, en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Vous étiez avec nous aussi ce matin dans Tout pour investir, à retrouver en replay. Cette séance qu'on va vivre avec nos deux experts aussi viennent de nous rejoindre, Jean-François Robin pour Natixis. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
On est content de vous retrouver Jean-François.
Eh bien, plaisir.
Presque bronzé, je dis presque parce que vous revenez de Bretagne, on peut pas tout avoir.
Louis de Fès. C'est jamais beau là-bas, faut pas y aller, faut y aller.
Oui, dans cet été, vous avez eu chaud même là-bas. Louis de Fès est avec nous aussi. Bonsoir Louis, bienvenue. Directeur de gestion de Gay-Lussac Gestion. Messieurs, on peut d'abord démarrer peut-être par l'ambiance de marché. J'ai envie de dire presque sereine face aux remontées de taux obligataires quand même. Le 10 ans français aujourd'hui sur un nouveau, un énième plus haut de 2008, se disant français à l'instant à 4,26. Mais Antoine, les indices tiennent peu ou prou. On n'est pas sur une chute des indices actions malgré les tensions obligataires.
Oui, on arrive à digérer tout ça et c'est plus haut. Alors, il faut dire qu'il y a un des points de crispation du marché depuis quelques semaines qui à nouveau fait l'objet d'une action d'une banque centrale, à savoir la faiblesse du yen. La banque centrale japonaise visiblement est intervenue cet après-midi pour réduire la pression. On est à 158 yens pour un dollar. On avait atteint les 160, hein, donc niveau traditionnel où la banque du Japon intervient, et des fois même les autorités américaines. Donc bon, là, ça réduit un petit peu la pression. C'est donc en grande partie pour ça que Wall Street est en hausse. C'est vrai qu'on a eu des indicateurs plutôt pas mauvais du côté de l'économie américaine. Et puis, du côté des marchés européens, on était plutôt orienté à la baisse toute la journée. On réduit les pertes. Là, le CAC 40 baisse de 0,26%. 8280. On a même la tech qui est en hausse. Hein, l'Euronext Tech Leaders prend 0,06%.
Avec un pétrole alors qui parallèlement continue de monter. Hein, oui, on est sur un retour des attaques, hein, des tirs physiques entre Américains et iranien, le Brent actuellement sur des plus hauts de 5 semaines, oui, $95.23, on se dirige à nouveau vers les $100 pour le baril de pétrole. Les taux obligataires montent un peu partout, le 10 ans américain est à 4,80 à l'instant, 4,80, ça y est, on y est. Et pourtant, Wall Street est en hausse, et pourtant le CAC 40 ne perd que 0,2%. Pourquoi le marché action résiste-t-il à ce point, Jean-François?
Oui, ben c'est intéressant. Alors, c'est un peu lié à ce que disait Antoine juste avant. Et d'ailleurs, hein, il peut y avoir de la liaison entre les deux parce que quand vous avez les Japonais qui interviennent sur le marché de l'échange ou aidés par les Américains, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vendent des obligations américaines. Hein, donc, ça peut faire monter les taux. Hein, c'est pas complètement, mais c'est évidemment pas le principal facteur. Le principal facteur, vous l'avez dit, c'est ce conflit qui est très loin de se terminer, qui fait monter les anticipations d'inflation puisque les matières premières montent. Et donc, on s'attend à ce que les banques centrales y réagissent, etc. Donc, on met des niveaux de taux plus élevé. Ce qui est très intéressant, c'est que normalement, c'est plutôt dans l'effet inverse que ça se joue, c'est-à-dire que c'est quand les actions baissent qu'en général, on achète des obligations, donc ce qui fait baisser les taux d'intérêt. Mmh. Donc, c'est la fameuse théorie du portefeuille, hein, 60-40. Hein, vous êtes censé acheter un portefeuille équilibré pour aller assez vite. Ouais. 60% d'actions, 40% d'obligations.
C'est le monde d'avant, Jean-François.
C'est le monde d'avant, mais n'empêche, qu'est-ce qui est très intéressant? On disait, eh bien, faut acheter des actions pour rêver, des obligations pour bien dormir. Là, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse.
J'adore.
Vous êtes plutôt en train de vous faire des cheveux blancs, et je sais de quoi je parle, parce que vous avez effectivement des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas de monter aujourd'hui. Normalement, ça doit impacter les économies, puisque les taux d'intérêt, ça doit faire réduire l'investissement, ça doit baisser les valorisations des actions, surtout de la tech traditionnellement, qui est très leveragée. Et bah, pas du tout. Pourquoi? Bah, parce que la tech, en tout cas, c'est le narratif qui marche en ce moment, la tech serait immunisée contre des hausses des taux, puisqu'ils sont cash riches, ils ont beaucoup de trésorerie, etc. Là où moi j'ai un gros doute sur ce mouvement quand même, c'est que de plus en plus, la tech est de moins en moins cash riche, on parle de free cash flow négatif de plus en plus. L'année prochaine, la plupart des 5 gros de la tech vont avoir besoin de cramer du cash, parce qu'ils investissent tellement qu'ils sont en train de cramer un petit peu leur trésor de guerre. Et donc, ils devraient être plus sensibles au taux d'intérêt, et donc les actions devraient être plus sensibles au niveau de taux d'intérêt. Donc pour l'instant, c'est pas du tout le cas, mais attention, c'est peut-être une thématique qui va arriver.
Ouais, enfin, sauf que le reste de la cote aussi se porte bien, là. On a découvert cet été qu'il y avait un monde au-delà de la tech quand même. On a vu les performances du S&P européenne aussi progresser malgré la tech, indépendamment de la tech. Il y a eu un élargissement des performances. Donc, on ne dépend plus que de la Seulement de la tech.
Complètement d'accord. Hein, parce qu'on a cherché des alternatives. Simplement, c'est que là, des niveaux de taux qui montent, il faut bien voir que ça veut dire que c'est des conditions financières
pour tout le monde
qui se resserrent. Et ça, en général, ça ralentit les économies. Hein. Les taux d'intérêt peuvent monter et les actions peuvent monter dans un épisode de surchauffe ou au contraire, c'est que ça va tellement bien qu'on a un peu de la surchauffe. Là, c'est pas du tout le cas. On a plutôt des économies qui ralentissent un poil. Et donc, évidemment, c'est conditions financières qui se resserrent avec des banques centrales qui vont peut-être monter les taux. On l'a vu là que ça commence à un peu à l'autre bout du monde à être le cas. Ça va quand même peser sur autres valeurs que la tech.
D'accord. Alors, les taux obligataires sont en train de se tendre un petit peu partout. Pourtant, le marché actions résiste à peu près. Est-ce qu'on peut aussi y voir une explication à travers la croissance? Alors, ici en France, on est dans un monde un peu terne, c'est vrai, en termes de croissance. Mais enfin, dans le monde, il y a une vraie croissance. Est-ce qu'on peut se rassurer du fait qu'il y a une croissance en face de ces tensions obligataires?
Louis. En Europe, ça fait 3 ans qu'on n'a pas de bénéfices par action. On attend quasiment 17% de croissance des bénéfices par action pour le Stoxx 600. À part la conso, tout a été révisé en hausse. Les industriels, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est cyclique, tout ça, ça a nettement rebondi. Les financières, tout ça, en ce moment, ça marche plutôt très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, le marché, un peu, ça fait 3 ans qu'il y avait un re-rating sur le P du price-earning marché. Et là, pour une fois, c'est les earnings qui prennent le relais.
Les bénéfices.
On a 14,5 fois les bénéfices en Europe. Et c'est vrai que l'Europe, ça va nettement mieux. Donc, voilà, c'est pour une fois... La croissance des bénéfices par action est plus forte que la hausse des taux. On l'avait vu aussi avec la guerre en Iran pour l'instant, et la montée du pétrole, toutes ces problématiques de flux. Pour l'instant, le marché regarde un peu avec les lunettes roses, regarde la croissance des bénéfices par action et y aller au rendez-vous.
Est-ce que néanmoins le fait qu'on reste en dynamique haussière sur le pétrole, on est donc à $95 là sur le Brent, est-ce que ça vous inquiète dans le sens où on voit pas de bout à ce conflit entre Américains et Iraniens, on voit pas de réouverture durable du détroit d'Ormuz à ce stade, et donc des tensions obligataires peut-être amené à se poursuivre, avec en plus des déficits souverains qui continuent de se creuser. Est-ce qu'il y a un niveau de taux obligataire à partir duquel vous direz ça marchera plus là pour le marché actions, ça finira par plomber ce marché actions?
Je pense qu'on n'est pas loin là des taux à 4,80 et c'est quasiment 5,30 sur le 30 ans US. Là, on arrive à un point. On a vu il y a 10 jours Scott Bessent qui a micro-intervenu, hein, qui a juste doublé l'intervention juste pour refaire baisser un peu les taux. Donc on voit qu'on n'est pas loin des points hauts et ce qui pourrait être un peu pénible pour le marché action. Mais c'est vrai, comme vous dites, pour l'instant, c'est plus des thématiques de flux que de l'inflation. Ce qu'on a vu, les derniers chiffres d'inflation, même que ce soit en Europe ou aux États-Unis, voilà, même Scott Bessent l'a dit, il a dit que les derniers chiffres étaient peut-être un peu mieux, mais pas encore assez importants pour, on était encore trop éloigné de 2%. Donc voilà, il y a dans le 11, je crois que le 11 septembre, il y aura les chiffres du CPI qui sera très important. Mais pour l'instant, c'est plus des thématiques de flux que vraiment la grande, tout le problème inflationniste qu'on avait eu de 2002 à 2024.
Jean-François, c'est quoi la principale explication aux tensions obligataires qui marquent cette rentrée boursière? Est-ce que c'est l'aggravation des déficits des États, la principale explication? Est-ce que c'est l'inflation? Ou est-ce que c'est la perspective de hausse de taux de la Fed?
Ah bah, je crois qu'il y a un peu des trois.
Non, vous devez choisir.
Mais moi, je choisirais plutôt, vu que c'est généralisé, c'est quand même plutôt les finances publiques, pour moi, qui sont la principale explication. Parce que sinon, si c'était les hausses des taux des banques centrales, ça devrait plutôt faire baisser, en fait, les taux d'intérêt. Parce que ça veut dire que les banques centrales réagissent, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter dans les taux longs, puisqu'ils vont être contenus, ces pressions inflationnistes. Donc c'est bien les finances publiques. Et quelques petits chiffres pour nos auditeurs qui sont quand même assez parlants. Hein. L'homme malade de la dette en ce moment, c'est pas la France, hein, c'est les États-Unis. Hein. La dette États-Unis pendant nos vacances, hein, elle a passé les 40 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi, 40 000 milliards de dollars? Ça veut dire que la dette sur PIB, hein, en français, on va doucettement vers les 117%, 118%. Eux, ça veut dire qu'ils sont à 120%, donc ils ont déjà dépassé. Mais juste pour donner d'autres niveaux, ça veut dire que la dette américaine, elle a doublé depuis 2018, elle a quadruplé depuis 2008.
Ils ont une croissance nominale de 6%, Jean-François.
Alors, juste un
beaucoup
petit,
mieux
un petit,
que nous.
Ouais, mais justement, un petit sujet quand même, c'est que aujourd'hui, quand vous avez des taux, ça a été cité, quand vous avez des taux qui sont là, on commence à avoir des taux qu'on n'a pas vu la séquence, avoir des taux à 30 ans aussi haut, aussi longtemps, c'est 80, voilà, je crois que c'est 2006 qu'on n'a pas vu ça. Et ben vous avez une croissance, ok, mais la croissance américaine au deuxième trimestre en annualisé, elle est à 1,5, hein, donc faut effectivement se mettre tout ça un petit peu, c'est de la croissance, il faut la corriger de l'inflation, je vous entends bien, mais on est quand même aujourd'hui sur une dynamique de la dette. Depuis le 1er juillet, songez que la dette américaine, elle a monté de plus de 700 milliards. Donc les intérêts de la dette américaine aujourd'hui, c'est 1200 milliards. Donc c'est plus que le budget du Pentagone, voilà, qui est à 900 milliards. Donc c'est 18%, hein, c'est presque 20% maintenant, la part des revenus que les États-Unis consacrent à leur payer les intérêts de la dette. Donc ce problème qu'on a en France, hein, on était à 2%, on va passer à 4%, etc., etc., il est généralisé. Et c'est un petit peu ça qui est flippant, c'est qu'on est quand même un petit peu dans un moment particulier où il n'y a pas de pas vraiment de valeur refuge, parce que la valeur refuge par excellence, ben, c'est normalement les obligations du Trésor américain. Ben, elles sont au même titre que les autres, et encore pire vu que la dette monte beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit l'or qui monte, l'argent qui monte, le Bitcoin qui revient. On voit peut-être des choses un peu traditionnelles.
Mais pendant des années, on a réussi à trouver des échappatoires. Il y a eu une action des banques centrales qui à chaque fois parvenait à refroidir le marché obligataire. On a même vu des taux négatifs. Là, on n'a plus de clé face à cette hausse des taux obligataires.
Là, on n'est plus du tout en taux réel négatif. On est même à 3%. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un Américain, il peut acheter, donc ajuster de l'inflation, des taux à 3% sans rien faire. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie alternative par rapport aux actions. Mmh. Et c'est que pour revenir à ce que vous voulez dire, c'est vrai que 40 000 milliards, on était à 25 000 en 2022. Vous voyez comme c'est monté vite. Et c'est vrai que les déficits américains, donc depuis la première élection de Trump, bah, tout le déficit américain, quoi, toute la croissance américaine a été financée par déficit. Mais sauf qu'avant, c'était les seuls, parce que toutes les sociétés du S&P, bah, elles étaient tellement cash riches, on l'a vu. Et maintenant, avec la nouvelle, tous les investissements à faire sur l'IA, pour la première fois, bah, toutes ces grandes entreprises américaines font appel au marché obligataire pour pouvoir se refinancer. Alors qu'avant, elles étaient beaucoup de cash, elles rachetaient leurs actions, et donc la dette américaine pouvait monter tranquillement, parce qu'elles trouvaient toujours refinancement. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les sociétés américaines ont émis quasiment 1700 milliards d'obligations, en hausse de 27% sur un an. Donc voilà, maintenant, vous avez, vous le disiez tout à l'heure, toutes les sociétés les hyperscalers vont devoir être en free cash flow négatif, donc vont devoir faire appel au marché. On a vu SpaceX, on a vu même Alphabet qui l'a fait il y a quelque temps à 85 milliards, ce qui était juste énorme. Donc clairement, cet assèchement de liquidité, il y a une vraie concurrence entre les obligations maintenant privées, qui peuvent être même plus safe que certaines obligations d'État. C'est pour ça, donc c'est des thématiques de flux. On a parlé également du Japon, des Japonais maintenant qui sont avec des taux de plus en plus élevés, au plus haut depuis peut-être 20 ans ou 30 ans. Depuis 96. Donc forcément, le Japon qui était un acheteur naturel des dettes américaines, il revient, ça fait mécaniquement monter les taux américains.
Oui, et donc il y a la concurrence du privé, effectivement, face aux États. Broadcom publiera ce soir ses résultats aux États-Unis après la clôture. Broadcom, justement, qui pourrait venir sur le marché de la dette à hauteur de 100 milliards de dollars. On a vu passer ce chiffre en fin d'été, là, il y a deux semaines, 100 milliards de dollars potentiellement de la part de Broadcom.
C'est vraiment très lié avec tout ce qu'on raconte, hein, parce qu'en fait, voilà, on a sur les 5 plus gros, les 5 gros de la tech, là, ils vont avoir sans doute émis cette année plus que la France, qui est le premier émetteur de la zone euro, etc. On est à 250 milliards pour l'instant d'émission de la dette de ces gens-là qui n'émettaient pas de dette. Ils se finançaient sur leur résultat, etc. Donc on a un vrai sujet de cannibalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez investir autre chose que dans les actions, dans l'obligataire, bah, des fois, c'est peut-être même plus sûr d'aller chercher du Alphabet que du Trésor américain, puisque le Trésor américain, bah, les finances publiques sont hors de contrôle. Donc, vous avez vraiment une espèce de compétition, de concurrence qui est en train de se passer avec des émissions de dette qui explosent, hein, ça a été dit, sur l'investment grade, presque 1700 milliards prévus cette année. Bah, évidemment, ça devient un sujet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur refuge et une énorme sollicitation du marché obligataire, alors que l'épargne mondiale, par définition, bah, elle est finie, quoi. C'est un monde fini.
C'est dans ce contexte qu'on est en train de décrire que demain, la France passe un test sur le marché obligataire. L'agence France Trésor, demain, va émettre des obligations à moyen long terme, 10 à 20 ans. On doit émettre entre 11 milliards et demi et 13 milliards et demi d'euros. Alors, on devine qu'il y aura de la demande. La France attire toujours. La question, c'est à quel taux on va emprunter? Vous attendez quoi? L'agence France Trésor, comme d'hab, va réussir son coup? Ou à un moment, face à la mer et montant, vous pouvez pas réussir à la contenir?
Bah non, mais le paradoxe, c'est qu'il y a des acheteurs presque contraints, parce qu'en fait, vous avez nos assurances vie, etc. Encore une fois, je sais bien que le 60-40 est moins à la mode dans la théorie du portefeuille. Mais
peut-être que si on taxait davantage l'assurance vie, il y aurait moins d'acheteurs contraints de dette française.
Oui, mais même de toute façon, il y a beaucoup d'investisseurs de long terme qui sont très intéressés par avoir des rendements fixes, moins dépendants de la valeur d'une entreprise. Donc, de toute façon, ça prendra preneur. Et au contraire, à ces niveaux de taux-là, la France devient très intéressante pour ce genre d'investisseurs. Donc, non, l'éducation demain, la dernière qu'on avait eue en juillet, on avait déjà les mêmes questions, un peu moins pire, parce que le niveau était un peu moins élevé. Mais justement, typiquement sur le 10 ans, hein, sur le 2036, 3,5 fois la demande de ce qui a été finalement émis. Je tiens les paris qu'on sera au-delà de 2 au moins.
Oui. Il n'y a pas de problème de refinancement pour la France. La question, c'est le taux auquel demain on va se refinancer.
Le coût de la dette, je vous donne un petit chiffre. On est à 55 milliards l'année dernière. On va être à 78 milliards cette année. On sera à 100 milliards avant fin 2028. Donc, on est sur un truc où le budget de l'éducation et de la défense réunis, c'est rien à côté de ce qu'on est en train de payer, puisqu'on s'endette tous les jours, quoi.
Fin 2028, on sera sur un service de la dette de 100 milliards d'euros.
Ouais, en 2029, 100 milliards selon la Cour des comptes, on va tangenter les 100 milliards. Et donc cette année, on va être à 78 milliards déjà. On vient de 55. 5 milliards. Donc évidemment, vous avez de plus en plus de dettes et c'est de plus en plus cher pour se refinancer. Et donc vous êtes sur le phénomène que
l'État pourra choisir de réduire ses dépenses, il va devoir le faire à un moment ou à un autre. Ça ne permettra pas forcément d'investir beaucoup plus par ailleurs, puisque les réductions de dépenses seront de plus en plus consacrées au simple remboursement des dettes.
Ça devrait être le débat de la présidentielle, c'est qu'il faut trouver 125 milliards d'ici 2030. Tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Hein, c'est 25 milliards par an à trouver juste pour stabiliser la dette.
Faut brûler tout ça. C'est Jean-Luc Mélenchon qui. Il dit les Américains brûlent leurs dettes puisque le Trésor américain rachète lui-même les obligations.
On vient de sortir un joli papier là-dessus pour expliquer que ça aura un coût supérieur aux bénéfices, puisque évidemment, si vous faites ça, votre coût d'emprunt va monter. Donc à la fin, on retrouve encore plus de coûts supplémentaires.
Ça fait longtemps que la France fait peur, mais heureusement, il y a le reste de l'Europe qui va pas trop mal. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a encore l'Allemagne qui, lui, a plutôt une dette...
Ils ont franchi les 3% de déficit aussi,
quand même, mais c'est vrai qu'après, si on refait un peu le parallèle, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, on le voit, nous qui sommes chez Gay-Lussac Gestion sur les small et mid cap, c'est un désert sur les valeurs small cap françaises, il y a des décotes, un peu comme ce qui se passe au UK. En revanche, le reste de l'Europe, c'est pas que la France, il y a beaucoup de pays européens, notamment les pays du Sud qui sont en train de... et même les pays nordiques aussi, qui sont en train de bénéficier de tous ces fameux capex, des hyperscalers, c'est quand ça a ruisselé. Il y a beaucoup de sociétés, notamment en Norvège, qui sont en train de construire des data centers, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées. C'est pour ça que je reste quand même relativement positif sur le marché actions européen, parce que au moment où on en parle, où tous les capex sont énormes aux États-Unis, donc c'est vrai que quand on regarde le free cash flow yield du S&P, on n'est plus qu'à 2 fois. En Europe, on est à plus de 5 fois. Donc clairement, l'Europe est beaucoup plus bon marché, parce que clairement, les capex des Américains arrive aux États-Unis. Donc c'est vraiment positif. Donc c'est vrai que voilà, la croissance des bénéfices par action. Et il y a une petite stat qui est assez importante, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que le S&P a explosé à la hausse parce que il faisait du rachat d'actions depuis des années. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Les rachats d'actions, comme l'Europe, ils ont plus de cash, les rachats d'actions vont être en Europe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, à mi-août, il y avait 60% des sociétés européennes qui n'avaient pas encore commencé leur rachat d'actions. Donc tout ça, ça va permettre d'un flux naturel qui va arriver sur le marché, notamment sur le quatrième trimestre.
Parce que vous disiez, c'est intéressant ce chiffre, 60% des entreprises européennes qui ont prévu des rachats d'actions cette année, 60% d'entre elles ne les ont toujours pas mises en œuvre.
Nous ne les ont toujours pas.
Donc c'est à venir, et c'est un soutien à venir pour les marchés.
Juste pour vous donner une ordre d'idée, les rachats d'actions, c'est à peu près 2,5, entre 2,5 et 3% des volumes quotidiens, normalement, quand ils sont élevés. Donc on peut s'attendre à plus que ça sur le quatrième trimestre, parce que voilà, ça va être un vrai soutien pour le marché européen. Donc c'est pour ça qu'on reste assez positif sur la classe d'actifs européenne.
Alors tiens, vous suivez très près les small et mid, ça tombe bien, et puis nos auditeurs sont friands d'idées d'investissement. Et vous avez une ou deux idées de valeurs européennes à privilégier pour la suite ?
Alors nous, on aime beaucoup la thématique en Norvège, notamment parce qu'il y a des plans d'infrastructure de relance. Donc il y a beaucoup de sociétés qui bénéficient ces plans d'infrastructure dans les autoroutes ou dans les hôpitaux, dans tous les bâtiments publics. Donc notamment une valeur qui s'appelle Sentia, donc qui construit des hôpitaux, des bâtiments publics pour le gouvernement. Et récemment, on nous a demandé aussi de construire des data centers. Ils en ont encore gagné un ce matin. Donc le carnet de commandes s'est fortement apprécié. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous savez, quand vous construisez pour le gouvernement, souvent, c'est des marges autour de 5-6%. Les data centers, comme ça va être beaucoup plus rapide et que tout le monde est très pressé, ils arrivent à faire des marges qui sont plutôt 7-8. Donc un, ça vous fait un supplément de croissance. Et surtout, c'est relatif sur les marges. Donc voilà, nous, la Norvège, et en plus, c'est un pays qui bénéficie de la hausse du pétrole. On en parlait tout à l'heure. Donc dans tous les cas, la Norvège, c'est des pays assez corrélants et qu'on aime beaucoup.
Comment on peut rappeler le nom de cette valeur et les plaies même, parce que nos auditeurs veulent qu'on les pèle.
Alors Sentia, S-E-N-T-I-A.
Ah, je pensais vous piéger la cartographe, mais
non, pas... c'est
je vous fais confiance. une deuxième valeur.
Toujours sur l'Europe ou en France, vous voulez ?
Celle dans laquelle vous croyez le plus.
Alors il y a une valeur qu'on aime beaucoup également, qu'on aime beaucoup, nous, donc on va en dire deux, il y a GTT.
Française.
Voilà, valeur française, donc c'est plus une mid-cap, et qui bénéficie à la fois de la hausse du pétrole, mais surtout de tout ce qui se passe, toute la problématique de gaz d'approvisionnement. Vous avez le prix du gaz encore en Europe, les problématiques avec la Russie, et tout ce qui est au port de GNL. Donc c'est une société qui est quasiment unique en son genre, qui a une technologie, donc avec quasiment 100% de part de marché, qui offre une très forte visibilité pendant au moins les 5-6 prochaines années. Le marché adressable vient d'être relevé. Donc voilà, c'est une société qui aujourd'hui passe complètement à travers les crises politiques, les problèmes de taux d'intérêt. Et enfin, si on a encore le temps, peut-être une dernière qu'on aime beaucoup aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le pouvoir d'achat qui est un peu en berne, et tous les gens qui aiment de plus en plus être beaux et sales, donc c'est une société qui fait de la protéine, donc on parle des poulets, donc LDC, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, voilà, le leader français, c'est la Belle Rouge, le Coq Gaulois, etc. C'est une société familiale extrêmement bien gérée, qui bénéficie d'un down trading, parce que les gens mangent moins en moins de viande rouge et plus en plus de poulet. Voilà, c'est des thématiques structurelles.
C'est bon pour la salle, le poulet? Non, mais les protéines, il y en a plus dans la viande rouge que dans le poulet. non ? Je sais pas.
Bon, le poulet,
c'est
des œufs.
Non, c'est plus sain le poulet que la viande rouge.
Oui, c'est plus sain.
Mais non, mais genre, en termes de protéines, c'est pareil. C'est
moins gras aussi.
Oui, c'est moins gras.
Beaucoup moins gras, oui.
D'accord, oui. Bon. Jean-François, parmi les mutations que le marché, chaque jour constate, observe, parfois encourage, des mutations auxquelles il donne un prix, il y en a une autre, la mutation du marché électrique. Alors, on a des chiffres de voitures neuves qui ont été publiés en France, qui progressent, les ventes de voitures neuves cet été, les chiffres qui ont été publiés hier, avec notamment la progression de la part des véhicules électriques. Alors, Renault, Stellantis, depuis quelques séances, ont bien progressé. Là, depuis hier, on a une petite prise de consolidation, mais quand même, Renault, Stellantis ont dernièrement plutôt surperformé le marché. Sur ce marché électrique, ce marché de l'automobile qui est en train de se transformer, vous avez, vous aussi, un chiffre à nous apporter aujourd'hui.
Oui, moi je trouve ça très intéressant, justement, dans tout ce contexte-là où on se demande comment ça se fait que les économies résistent aussi bien à la crise iranienne, quelque part. Pourquoi ? Parce que peut-être que les économies sont de moins en moins dépendantes des prix du pétrole. C'est typiquement le cas de la Chine qui est en train de s'électrifier. Ça y est, ils font plus d'électricité à base maintenant de renouvelables que de charbon. Et bien, en France, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que 38% des voitures neuves vendues au mois d'août, c'est du full électrique, pas de l'hybride, du full électrique. Dans un marché qui est plutôt un peu, toujours un petit peu souffreteux, on est sur les chiffres de vente de voitures neuves inférieurs à ceux de 2019. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'année dernière, c'était une voiture sur quatre en France. Là, aujourd'hui, on est en train de passer sur un truc qui s'accélère et on est sur ce tipping point. Donc, attention, on est en train d'avoir une passage à l'électrique qui fait qu'on est moins dépendant peut-être des prix du pétrole, moins dépendant de prix de l'essence et du diesel, puisque là, les diesels s'écroulent complètement dans les ventes. Donc, c'est assez intéressant quand même ce qui se passe là. Et là, on voit bien la R5 qui se vend très bien. On voit un certain nombre de voitures, là, 2008, etc. On a des ventes qui se tiennent bien dans ceux qui ont fait le choix du full électrique, quoi.
Oui. Dernière question, avant dans un instant de vivre la clôture ensemble en direct, le CAC 40 à 3-4 minutes de la clôture est en baisse à 0,2%. Dernière question, il va à nouveau faire, on est en septembre, mais c'est comme ça, il va à nouveau faire 40 degrés dans le sud ces prochains jours, 41 degrés peut-être même dans le sud-ouest. C'est un truc quand même assez hallucinant. Dans vos allocations, est-ce que vous pensez qu'il faut de plus en plus choisir ces valeurs aussi en fonction de l'impact des canicules à répétition et sur des mois de plus en plus nombreux? Ça a commencé au mois de mai, juin, juillet, août, et puis on est début septembre. Est-ce que vraiment ça commence à se traduire véritablement dans les allocations, Jean-François ?
Alors oui, nous on a beaucoup de demandes de clients qui justement demandent quelles sont les valeurs qui résistent le mieux à ces problématiques-là, parce que là, de ces problématiques-là, il y en a plein, mais on peut en citer une où on a tous été un peu confrontés à ça. Moi, j'ai passé mes vacances dans le Morbihan où il y a on est sur des restrictions d'eau qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. Donc il y a cette problématique typiquement de l'eau. Et donc dans les valeurs qui sont aujourd'hui résilientes à ça, il y a celles qui en profitent. Aujourd'hui, il y a des valeurs qui portent justement. Si vous devez, on a 20% de pertes sur les réseaux d'eau français, il y a des entreprises qui s'en occupent, c'est bon. En revanche, évidemment, si vous êtes dans la chimie allemande sur BASF qui dépend du Rhin pour acheminer son usine et le Rhin est si bas que là qu'on peut pas, donc les prix du frais augmentent, on peut pas faire un certain nombre de supply chain comme normalement, vous avez impacté ça. Donc évidemment, il y a d'un côté les valeurs qui sont liées à l'eau et de l'autre côté ceux qui sont liés à la chimie ou qui sont un peu victimes de ça. C'est pareil, vous avez vu le nucléaire, on a été obligé d'arrêter un petit peu des centrales. Il n'y a pas assez d'eau pour les refroidir. En plus, il y a des méduses, donc on est obligé d'arrêter deux centrales à cause des méduses parce qu'il fait chaud dans l'eau.
Oui, mais on peut dire, c'est pas grave, l'automne arrive, ça va bien finir par se résoudre. Non, mais voilà, c'est-à-dire que ça a un impact ponctuel dans les portefeuilles ou ça peut avoir un impact structurel?
C'est un peu structurel. On a vu, il y a deux sociétés qui marchent très très bien, notamment Magnum, vous savez, qui appartenait à Unilever. Je pense que tout le monde, les éditeurs, ont mangé des glaces Magnum cet été et les ventes ont très bien marché. Le titre a fortement progressé. Et nous, on a un titre qu'on aime bien plus dans les small et mid cap qui s'appelle Cricri Milk, qui fait des yaourts grecs, pas à la grecque, Il y a aussi des glaces dedans et ça a été un carton. La société marche super bien. Ils sont en train d'envahir les États-Unis et tout le reste de l'Europe avec leurs glaces et leurs yaourts. Donc tout ça, c'est un peu lié un peu au réchauffement climatique.
Cricri Milk. Voilà. Vous pouvez les plaît.
K-R-I, petit tiret, K-R-I.
Avec un K.
Voilà, ouais. Avec un K.
Bon, sinon, il y a le rosé de Provence.
Voilà.
Oui, il y a aussi. Avec modération. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir. Dans un instant, la clôture des marchés. Donc, merci à Louis de Fels pour Gay Lussac Gestion et Jean-François Robin pour Natixis. Cette clôture, vous l'attendez? Eh bien, vous allez pouvoir la vivre en direct avec Antoine dans une poignée de secondes. À tout de suite sur BFM Business. On est là, c'est BFM Bourse jusqu'à 18h.